Bonjour à toutes et à tous, 15h sur Fréquence Mistral, ravie de vous accueillir pour ce tout premier numéro de l'année de voyage. Et quel voyage, un voyage au fil des mots. Bonjour Dominique.
Bonjour Agathe.
Au programme aujourd'hui, eh bien, Noël va jouer un petit peu les prolongations, je crois. Hein.
Oui, voilà, plein de choses en ce début d'année. D'abord, premièrement, j'aimerais effectivement profiter d'avoir le micro pour écouter, souhaiter à tous nos auditeurs, à tous ceux qui connaissent, voilà, une bonne année.
J'ai cru que c'était un joyeux Noël.
Non, mais bon, je pense que... Mais Agathe, elle a toujours l'air de dire que je suis toujours à côté de la plaque. C'est vrai qu'avec les dates, je m'embrouille, mais Agathe, je suis certaine qu'aujourd'hui, Noël est passé, que c'est le jour de l'an et que je me fais un plaisir de souhaiter effectivement une bonne année à tous nos auditeurs. Voilà, et pour te, effectivement, t'agacer un petit peu, hein, c'était pour te troubler, j'avais envie quand même de continuer la magie de Noël en racontant encore deux tout petits contes pour les enfants, justement, qui se passent aussi au moment de la neige et au moment de Noël. Voilà, histoire de t'agacer un petit peu, hein, Agathe.
Bon, eh bien, musique alors pour se mettre un peu dans l'ambiance de Noël. Bon ben moi je suis assez contente que Noël revienne un peu et en plus je pense que cette histoire va être très très sympa, c'est celle de Dodoche la limace.
Oui, pauvre Dodoche, il lui arrive quelque chose d'extraordinaire en cette belle nuit de Noël. D'ailleurs, c'était une nuit de Noël de l'autre côté du monde, là où la neige tombe au mois d'août, où l'on se baigne en décembre. C'était Noël et tout le monde était heureux, sauf Dodoche. Pauvre Dodoche, elle était limace. Et bien triste de l'être, tellement triste qu'elle n'arrêtait pas de pleurer toute la nuit. Certes, de mémoire d'homme, on n'a jamais entendu pleurer de limaces, mais les hommes font tellement peu attention à ce qui les entoure. Pourtant, solitaire, méprisée de tous, sans amis, sans famille, Dodoche pleurait vraiment. Des limaces? Vous en avez vu, bien sûr, vous en avez rencontré, arpentant les allées d'un jardin après la pluie, ou se recroquevillant dans votre assiette sous une feuille de salade mal lavée. Et sans doute avez-vous éprouvé alors un sentiment de dégoût. Il faut bien dire que la nature ne les a pas tellement gâtés. Une limace, c'est mou, c'est flasque, c'est gélatineux. Ça n'a ni queue ni tête, ni tête ni queue. Ça finit comme ça, commence, et ça ne commence pas très bien. Bref. Le monde entier s'accroche à les trouver plutôt immondes. On dit un beau papillon, une gracieuse libellule, une adorable coccinelle. Et on peut accorder quelques mérites aux chenilles pour leur couleur, aux fourmis pour leur labeur, mais qui vraiment sauraient reconnaître un charme quelconque à ces bestioles ternes et gluantes que sont les limaces. Alors que pouvait faire d'autre la pauvre Dodoche, sinon de se lamenter sous la lune?
Oh, c'est pas juste, pleurnichait-elle,
sans que personne ne prête attention à sa grande douleur. C'est pas juste du tout. Il faut ajouter qu'elle faisait partie de l'espèce la plus ingrate de cette race défavorisée. Elle était petite, grisâtre, repoussante et insignifiante tout à la fois. Ses grandes cousines, les limaces rouges, pouvaient à tout le moins se vanter d'une robe agréable. Elle même pas. Certes, se disait-elle, il y a d'autres animaux qui ne sont pas bien beaux, mais au moins ils ont la faculté de se défendre. Les araignées ont leur toile, les mouches leurs ailes, les cafards sont rapides comme l'éclair et les vers de terre peuvent se réfugier dans les profondeurs du sol. Tandis que moi, je n'ai ni pattes, ni carapace, ni ailes, ni venin, je ne suis bonne à rien. Je suis toute nue, exposée aux mille dangers qui cessent sans cesse de me menacer. Trottine une musaraigne, maraude un hérisson, vole une hirondelle et hop, me voilà avalée, sans que je ne puisse seulement dire ouf. Les fourmis m'assaignent, les oiseaux me gobent et les renards eux-mêmes ne dédaignent parfois pas ouvrir leur vilain museau pour me dévorer toute crue. Sur le chapitre de l'appétit, Dodoche ne devait cependant rien à personne. Elle était même une championne dans sa catégorie végétarienne. Lorsqu'elle était en forme, elle était capable de dévorer en un temps record 3 feuilles de salade, suivies d'un cœur d'artichaut, avec une ou deux fleurs en guise de dessert, et de recommencer quelques minutes plus tard. Mais aujourd'hui, elle était tellement triste qu'elle en avait perdu l'appétit.
« À quoi bon se remplir la panse ?» se disait-elle. « Si personne ne vous aime, si vous êtes laide, à faire peur et si vous êtes destinée à être dévorée vous-même dans un avenir très proche. Non, décidément, non, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. »
Fatiguée, écœurée, découragée, Dodoche avait fini par gagner son abri sous une pierre. Elle s'y était lovée et après un dernier « bouh, bouh », elle avait enfin sombré dans un sommeil de limace. C'est alors que dans le ciel, juste au-dessus d'elle, apparut une lueur éclatante dont on ne savait pas si elle provenait d'une étoile, d'une luciole ou d'un ver luisant. En tout cas, il se passait des choses étranges. Dodoche dormait-elle? Rêvait-elle? Elle n'aurait su le dire. Mais elle était parcourue de sensations hors du commun. Cela naissait quelque part dans le dos, là. S'étendait à tout son corps, l'irradiait, la titillait. C'était à la fois douloureux et bienfaisant. « je rêve !» disait Dodoche. Elle avait l'impression bizarre que des ailes lui poussaient, ou bien des cornes, ou peut-être une trompe, qu'une masse inconnue essayait de s'extraire de son propre corps. Il lui semblait en même temps que sa chair flasque se revêtait d'une armure, comme si elle était devenue cétoine ou scarabée. Dodoche était plutôt terre-à-terre et jusqu'ici, ses songes les plus fous avaient consisté à échafauder des monceaux de feuilles de laitue, des murailles de chicorée. Mais ce qu'elle était en train de vivre dépassait de loin les ressources de son imagination. C'était de plus en plus agréable, de plus en plus éreintant. Elle finit par perdre conscience juste au moment où la petite lueur disparaissait au-dessus de son abri. Vint le matin. Un merle se mit à siffler. Dodoche, réveillée, se recroquevilla sous sa pierre, car l'oiseau était un ennemi redoutable. Cela faisant, elle se cogna. « Aïe !» dit-elle. Les limaces ont tout de même l'avantage d'avoir le corps élastique et mou, malléable en tout cas. Or, voici qu'elle venait de se cogner et qu'elle en avait éprouvé une petite douleur. « Mais qu'est-ce que j'ai dans le dos ? Deviendrai-je bossue par-dessus le marché ?» Elle tourna la tête, se contorsionna pour voir derrière elle, au-dessus d'elle, et ce qu'elle aperçut la fit baver de stupéfaction. « Ça, par exemple ? Ben ça, alors ?» Oh, il y avait de quoi être surpris, en effet. Voici que sur son dos, durant la nuit, avait poussé une coquille nacrée, irisée, à la fois légère et robuste. Voici qu'à son insu, Dodoche s'était transformée en escargot. Oh, elle mit quelque temps à s'y faire. Mais très vite, elle bénit le ciel de ce somptueux cadeau. De limace à limaçon, il y a un monde en effet. D'abord, des gens vous trouvent bien plus beau, et puis vous n'avez plus de problème de logement puisque vous transportez votre maison sur votre dos. Vous pouvez vous y claquemurer à la moindre alerte. Pour Dodoche, la vie devint belle. Un seul petit point noir peut-être. Les hommes sont-ils dégoûtés par les limaces? Oui, mais ils adorent manger les escargots. « Mais sans doute, n'y a-t-il pas d'humain au pays où vit Dodoche, la petite escargotte aux couleurs d'arc-en-ciel ?»«
Is that you, Santa Claus ?»«
Gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but I've paused because hanging my stocking, I can hear him knocking. Santa Claus! Sure is dark out, ain't the slightest spark out from my clacking jaws. Who's there? Who is it? Stopping for a visit? Is that you, Santa Claus?
Une carapace est tout à la fois une maison pour Noël. Ça, je trouve que c'est un beau cadeau. Ouais.
C'est beau, c'est une belle aventure.
Alors là, le titre de ce conte, c'est La Reine des Neiges, peut-être pas la Reine des Neiges à laquelle on pense.
Oui, voilà. En ce moment, on parle pas mal du film La Reine des Neiges. On parle beaucoup de ça. D'ailleurs, je vous raconterai, je l'ai aussi. C'est une version plus actuelle. Par contre, là, ça s'appelle La Reine des Neiges, mais en fait, c'est une jolie histoire de la naissance d'une fleur particulière de la montagne. Une légende raconte que, sur les cimes les plus hautes et inaccessibles des Alpes, vivait une fort belle fée, la Reine des Neiges.
Montagnards et bergers escaladaient les Alpes pour pouvoir l'admirer et tous en tombaient perdument amoureux. Ils auraient tout donné pour pouvoir l'épouser. Et ils finissaient tous par y perdre la vie. Aucun mortel n'épouserait jamais la fée. Ainsi en avait été destiné le destin. Il y avait quand même des jeunes gens courageux qui essayaient de l'approcher dans l'espoir de la convaincre. Chaque prétendant pouvait entrer dans le palais de glace, au plafond de cristal, où se trouvait le trône de la reine. Mais dès qu'il faisait sa déclaration d'amour, et la demandait en mariage, des milliers de lutins sortaient de partout, le saisissaient et le jetaient sur les rochers dans les abîmes sans fin. La fée observait la scène impassible, son cœur de glace n'étant pas insensible aux émotions. La légende du palais de cristal et de sa belle reine se répandit jusque dans la vallée, où habitait un jeune chasseur de chamois fort courageux. Fasciné par ce récit, il décida de se mettre en route et d'essayer à son tour de la persuader de l'épouser. Il quitta la vallée, marcha des jours et des jours, gravissant des parois enneigées, escaladant des pics glacés, défiant le vent glacial qui soufflait dans ces régions. Plusieurs fois, il crut être perdu, mais le désir de voir la fée lui redonnait des forces et le poussait à continuer. Il vit, en effet, devant lui, les hautes aiguilles transparentes du palais de glace. Le jeune homme n'écouta que son courage et se présenta devant la grande salle du trône. Il fut si ému par la beauté de la reine des neiges qu'il en perdit la parole. Pendant des heures, le jeune homme resta agenouillé en adoration devant elle sans mot dire. La fée le regardait en silence, un peu étonnée, et se disait que tant qu'il ne la demanderait pas en mariage, il n'y avait pas lieu d'appeler les lutins. Elle se sentait comme troublée par le comportement de ce chasseur si jeune et beau, mais elle n'osait pas se l'avouer. Enfin, le temps passait. La reine des neiges se surprit à penser qu'il consentirait même, elle-même, à elle, elle-même, elle va y penser, effectivement, qu'elle pourrait peut-être épouser ce jeune homme. Les lutins, étonnés par ses réactions, craignaient qu'elle pût désobéir à la loi et attirer ainsi la colère du destin sur tout le peuple de la montagne. Ils décidèrent donc de passer à l'action. À la tombée de la nuit, ils sortirent par les fentes des rochers, encerclèrent le jeune homme, le saisirent et le jetèrent dans un abîme. La reine vit tout depuis sa fenêtre, sans pouvoir intervenir. Cette fois, son cœur de glace fondit. La fée insensible s'était métamorphosée en femme. De ses yeux coula la première larme de sa vie, qui tomba sur un rocher et se transforma en une fleur étoilée. C'est ainsi que naquit l'immortelle des neiges, la fleur qui pousse sur les sommets les plus hauts, au bord des abîmes, plus connue sous le nom d'Edelweiss.
C'est maintenant à 15h14 sur Fréquence Mistral qu'on commence à avoir peur.
Alors on va peur
non
doucement.
Ah,
oui,
moi j'ai cru qu'on allait avoir peur.
On va peur, la peur va grêler en grandissant dans l'émission. Mais là on va commencer par justement une petite peur, fantôme et revenant pour les enfants toujours. Petit clin d'œil à eux encore. Je sais qu'ils ont repris le chemin de l'école, mais quand même. Ça s'appelle Le Moulin ensorcelé. C'est adapté d'un conte de Grimm d'ailleurs. Il était une fois un vieux moulin ensorcelé. Personne ne savait réellement ce qui s'y passait, car tous ceux qui étaient entrés avaient si peur qu'ils ne pouvaient rien raconter. Ils octaient, ils claquaient des dents, ils tremblaient, et ils ne voulaient plus, au grand jamais, qu'on leur reparle du moulin. Le meunier était au désespoir, car personne ne voulait le seconder. Tous ses apprentis le quittaient les uns après les autres. Aussi accueillait-il avec soulagement un jeune garçon qui vint lui demander du travail. Le jeune homme était si naïf qu'il ignorait la peur. Il s'installa donc au moulin,
par un bel après-midi d'été. Lorsque vint le soir, il s'assit sur un banc pour se reposer. Aussitôt, la porte de la cuisine s'ouvrit toute seule et une table déjà mise et couverte des mets appétissants s'avança dans la pièce. Des fantômes se mirent à dîner et le jeune garçon s'assit à la table avec eux sans être le moins du monde effrayé. Soudain, toutes les lampes s'éteignirent et le jeune homme reçut une gifle. Sa joue en était tout endormie. Et alors il se fâcha. « Non mais, en voilà les façons qu'il recommence et je lui rendrai sa gifle. » Eh bien, il en reçut une seconde et, à l'instant, il la rendit. Ce manège dura toute la nuit. Chaque fois qu'il recevait une tape, pof, il la rendait. L'autre rendait la sienne et le jeune garçon répliquait. La journée du lendemain fut longue pour le jeune meunier qui n'avait pas dormi de la nuit. Il attendait le soir avec impatience. Mais aussi avec quelques craintes. Les fantômes n'allaient-ils pas l'empêcher de fermer l'œil? Pourtant, cette nuit-là, il ne se passa rien. Ni même la nuit suivante. Les fantômes avaient eu peur de quelqu'un qui n'avait pas peur d'eux et ils se cachaient. Alors ce fut le premier ouvrier que le meunier garda et il le garda longtemps.
Bon, alors j'ai rangé mes musiques qui font peur. Alors je ne les ai pas, je ne les ai pas remplacées par donc le thème c'est plutôt les fantômes. Donc,
oui,
hein, pour
mais
l'instant.
C'est, on est toujours pareil parce que mais, moi un fantôme, j'en rencontre un, j'ai peur. Hein, ça,
c'est... J'ai choisi un petit air de musique tzigane et je pense que c'est approprié pour
oui,
cette histoire.
Oui, parce que souvent ces contes-là, c'est vrai, c'est tiré justement de tout le conte traditionnel, des histoires traditionnelles, des manouches, tout ça, des tziganes. Et c'est vrai que c'est, j'en trouve beaucoup dans ce genre de livre parce que c'est très riche, très. Mmh. Moi, je trouve qu'ils sont très bien écrits et j'aime beaucoup. Mais j'ai peur.
Et celui-ci s'appelle L'enfant trouvé.
Les anciens rappellent que la nuit appartient aux morts et qu'il faut donc éviter de voyager dès que le soleil se couche. Pourtant, Franz et sa femme Mitsa étaient tout de même partis du village au milieu de l'après-midi, pressés de regagner le campement des manouches. Seulement, Franz s'était trompé de chemin à un moment donné. « Arrêtons-nous, mon homme !» avait proposé Mitsa. Mais Franz avait répondu que la route était maintenant la bonne et qu'il ne faudrait plus longtemps pour arriver à bon port. Et voilà, l'obscurité recouvrait la campagne. Les étoiles se montraient dans le ciel et le chariot allait toujours. Franz se hâtait, tirant le cheval par la bride, tandis que la tzigane, assise dans le véhicule, se sentait oppressée par le grand silence pesant sur les environs déserts. Le chariot arriva au croisement de deux chemins marqués par une grande croix de bois fichée en terre. L'homme tourna la tête et dit « C'est à gauche ». Mitsa approuva. Il lui semblait reconnaître les lieux, le bouquet de longs peupliers là-bas plus loin. Le chariot roula encore un temps, puis Franz l'arrêta brusquement. Le cheval se cabra et le chaos de la voiture réveilla Mitsa qui s'assoupissait. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle soudain inquiète. « Tais-toi !» Franz tendit l'oreille. Entendit à nouveau, près de la haie, des pleurs d'enfants. La femme les entendit aussi. « Je vais voir !» dit l'homme. « Non, n'y va pas ! N'y va pas !» Mitsa avait crié d'instinct. Elle reprit une voix heurtée, aiguë. « N'y touche pas ! On ne sait pas qui est cet enfant ! Il ne m'en prie plus qu'on tombe sur des gendarmes ! Que dirait-il ? » Franz avait haussé les épaules et marchait vers la haie sans plus écouter sa femme. « On ne peut pas laisser un enfant abandonné sur le chemin » pensa-t-il. « Mais ses parents vont revenir !» continua Mitsa. « Repartons, mon homme, repartons !» Franz baissa la tête vers le paquet de linge reposant à terre. Un rayon de lume lui permit d'apercevoir un visage d'enfant inondé de larmes, une bouche ouverte d'où sortaient pleurs et gémissements. Une bouffée de compassion monta au cœur du tzigane. Il ramassa l'enfant d'un seul geste. « Viens, petit, et arrête de pleurer !» Le paquet serré contre la poitrine, il marcha vers le chariot. L'enfant ne pleurait plus. « Regarde un peu, Mitza !» La femme se pencha. Tout à coup, ses yeux s'exorbitèrent. Elle poussa un hurlement de terreur. Aussitôt à son tour, Franz s'aperçut que l'enfant avait changé de figure, qu'il était maintenant hérissé de poils, la bouche tordue par un rictus cruel, les yeux flamboyants de méchanceté. Ses bras s'écartèrent d'instinct du monstre, mais celui-ci se cramponna, agrippant la chemise du tzigane avec ses doigts crochus. Franz voulut s'en débarrasser, le jeter à terre. L'autre résistait. Sans savoir ce qu'il faisait, l'homme se mit alors à courir à grands bonds, ses hurlements se mêlant à ceux de sa femme. Tout en courant, Franz essaya encore de se dégager du monstre qui s'accrochait toujours à lui, sans lâcher prise. Au bout d'un instant, il réussit seulement à le repousser quelque peu sur le côté. La peur l'emporterait, droit devant, sans savoir où il courait. Mais voilà que le monstre se mit à grandir, à grossir, à peser davantage à chaque pas. Ses mains aussi grossissaient, devenaient énormes. Elles saisirent le cou du tzigane qui se sentit perdu. Encore un moment, il allait tomber à terre, écrasé, étouffé sous le poids de son terrifiant fardeau. Il n'arrivait même plus à crier maintenant. Soudain, il s'aperçut que dans sa course l'avait emporté jusqu'à la croisée des chemins où le chariot était passé tout à l'heure. Il vit la lourde croix plantée en terre. Alors, il eut un sursaut désespéré dans sa direction. Il tendit les bras, tomba lourdement sur le sol, ses doigts frôlèrent seulement la poutre. Un cri de rage lui perça l'oreille, tandis qu'au même instant l'étreinte du monstre se desserra. Franz en éprouva un immense soulagement. Il se tourna. Il était seul au pied de la croix. L'autre avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Une fois remis sur pied, le tzigane respira avec force et retourna vers le chariot à pas lents. Mitza se jeta sur lui, pleurant de douces larmes. Puis ils repartirent en direction du campement sans rien dire. Et s'ils ne sont pas morts, eh bien ils vivent encore aujourd'hui.
Et maintenant, place au maléfice.
Oui, avec une légende adaptée de la Hongrie du Nord. Ça s'appelle la Bohémienne enchantée. 12 chevaliers s'en allaient à travers la campagne, le corps recouvert d'une lourde armure et l'épée au côté. Le soir venu, ils arrêtèrent leurs chevaux au bord de la rivière appelée Dedva. « Nous passerons la nuit à la belle étoile, » dirent-ils. Après un repas frugal, ils s'allongèrent l'un près de l'autre en plein champ, au milieu des hautes herbes odorantes que le vent balançait d'un souffle régulier. En regardant naître les étoiles, ils s'endormirent d'un sommeil profond, car leur route avait été longue et fatigante. Sur le coup de minuit, pourtant, ils entendirent une voix, faible mais insistante, qui les appelait d'un ton suppliant. « Chevalier, beau chevalier, puissant seigneur, réveillez-vous. » Ils ouvraient les yeux, se dressèrent. Devant eux se tenait une frêle jeune fille, une tzigane, pieds nus, vêtue d'une longue robe bariolée, cheveux au vent. Les rayons de la lune permettaient de voir sa boucle tombante et ses grands yeux gonflés de larmes.
« Comment oses-tu nous réveiller ? » gronda un des chevaliers. « Et que nous veux-tu ? » demanda un deuxième d'un ton menaçant.
« Puissant seigneur, murmura la jeune fille, j'ai un trésor à vous proposer. »«
Un trésor ? En voilà une histoire. Mais de quel trésor s'agit-il ? Et pourquoi ne pas le proposer à ta famille plutôt qu'à nous ?»
Les questions jaillissaient, nombreuses, pressantes. La bohémienne baissa la tête et expliqua avec douceur que le trésor était bien réel et qu'il fallait pour le conquérir beaucoup de vaillance. Les chevaliers se regardèrent. Ils commençaient à y croire à ce trésor et la cupidité les poussa de l'avant.
« Où se trouve ton trésor ?»«
Dans la forêt, seigneur.
Montre-nous le chemin. »
Tout de suite, tout de suite. Mais d'abord, je dois vous expliquer. Le trésor est caché au fond d'une caverne. Un soldat en garde l'entrée, l'épée nue à la main. Passez hardiment en évitant la lame. Plus loin, vous verrez un bélier enflammé tourner au-dessus de vos têtes. Attention à cette poutre mortelle, elle vous briserait comme un rien. Au fond de la caverne, un serpent garde le trésor. Tuez-le, alors vous serez riche, immensément riche, jusqu'à la fin de vos jours. Les chevaliers hésitèrent un instant à la perspective des dangers qu'ils auraient à affronter. Mais la jeune Tziganne s'était mise à marcher et ils la suivirent.
« Oh, nous serons riches !» répéta l'un d'entre eux.
Au cœur de la sombre forêt s'étendait une clairière. À son extrémité se dressait un monticule herbeux et ils virent le soldat devant l'entrée de la grotte, énorme, torse nu, agitant une longue épée flamboyante. Son visage cruel semblait flamboyer lui aussi.
« Allez-y, Seigneur, je vous en supplie, c'est le moment. Allez, ne vous effrayez pas !»
Les 12 chevaliers firent encore quelques pas en avant, la main posée sur leur fourreau de leurs armes. Le soldat les aperçut, éclata d'un grand rire menaçant qui résonna comme un tonnerre dans le silence de la nuit. Alors, les 12 vaillants chevaliers reculèrent et, après un instant d'hésitation, s'enfuirent en cœur, courant qui mieux poussés par une peur épouvantable. Alors la jeune Tziganne les regarda disparaître comme paralysée. Puis se laissa tomber à terre, secouée par de gros sanglots. Déçue, désespérée, elle pensait une fois encore que personne n'arriverait à conquérir le trésor de la forêt et qu'ainsi elle resterait à jamais enchantée, ensorcelée, au pouvoir du magicien, maître de ce trésor.
Une musique très très inquiétante cette fois qui nous plonge dans l'univers de Guy de Maupassant.
Manosque, Sisteron, Castellane, Digne, Briançon, Gap, Marseille,
fréquencemistral.com.
Hop, on revient en arrière. Ça n'a donc oublié tout ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Toujours une musique très très inquiétante, mais nous n'entrons pas tout de suite dans l'univers de Guy de Maupassant. Une autre petite histoire avant, celle du mulot.
Oui, le mulot, autrement dit, un esprit. Dans les Antilles, on appelle ça le zombie. Voilà, et dans ce milieu-là, on appelle ça aussi un mulot, les mulets au pluriel. Donc c'est une histoire aussi, tu vas voir. Il est tard. En plus, il pleut. Quelques gouttes d'abord, vite transformées en averses, pénétrantes, glacées, durables. Le cheval peine davantage à chaque pas. Pulco a beau l'aider de toutes ses forces en soutenant le brancard en tirant avec lui. Le Tziganne rage à mi-voix dans ses moustaches épaisses. Jamais ce matin, il aurait dû abandonner les hôtes. Il leur avait dit « Partez devant, le temps de soigner les bêtes et je vous rattrape ». La compagnie s'en était donc allée sans attendre. Une dizaine de roulottes, et des ours enchaînés dans la grande plaine russe. Seulement, le cheval de Pulco était plus gravement atteint qu'il n'y paraissait au premier abord. Une blessure profonde sous le sabot, occasionnée par une ferraille sûrement jetée exprès par Hopken, le diable, ce méchant drôle. Le cheval a bien repris la route, mais il boite bas, marche lentement et souffre, ce qui n'est pas fait pour réjouir un cœur de vrai Tziganne. Et puis, pour encore bien arranger les choses, voilà que Marika vient de ressentir les premières douleurs qui précèdent l'enfantement. Pulco l'entend gémir dans la voiture et les 2 autres enfants près d'elle sont trop jeunes pour lui être du moindre secours. Tout juste savent-ils lui donner un peu d'eau à boire lorsqu'elle a trop soif. En vivement que la compagnie soit rattrapée. D'ailleurs, elle doit arriver maintenant au lieu de rassemblement de toute la tribu. Là, les femmes habiles ne manqueront pas pour aider Marika. Seulement, le campement est encore loin.
La pluie redouble de violence, ruisselle sur le chapeau de Pulco et s'écoule devant lui comme une gouttière. Le chemin s'amollit, devint plus lourd, plus difficile. Pulco serre les dents, tirant toujours autant qu'il le peut en dépit de la fatigue. Cela devait arriver. Le cheval s'arrête net, car la roulotte s'est penchée, une roue enfoncée dans une ornière. Rien à faire pour la décoller de là. Pulco, après avoir juré, poussé, court vers l'arrière de la voiture, détache deux planches qui y sont attachées. Marika gémit toujours, les enfants pleurent. Enfin bref. Heureusement, les planches sous la roue permettent enfin à la roulotte de repartir. Pulco encourage le cheval. « Plus vite, ami, plus vite! Tu te rends compte de ce qui arrive !» Il est tellement pressé qu'il en oublie de ramasser les planches. Le voyage reprend. On dirait que la pluie s'arrête et que l'état du chemin s'améliore. Pulco respire plus librement. D'autant mieux que Marika ne gémit plus, semble-t-il. Peut-être est-elle endormie. Soudain, la catastrophe. Une grosse secousse, bien plus importante que la première. Le tzigane lance un juron sonore, attrape son chapeau mouillé, le jette à ses pieds avec rage. Cette fois, l'essieu d'une roue est brisé à cause d'un mauvais trou en terre, caché sous une branche feuillue arrachée par le vent. « Pulco !» C'est la voix de Marika dans la voiture. Elle s'inquiète. « Ce n'est rien, sois tranquille, un petit accident. On va repartir et allez, on arrive bientôt. » Pulco s'étourdit de paroles rassurantes, mais en vérité, il est désespéré. Seul, sans matériel, il ne pourra jamais réparer cette maudite roue. Que va-t-il arriver à sa pauvre femme sur ce chemin désert et la nuit qui tombe ?« Pulco !» Le tzigane tourne la tête. Un vrai miracle. Surgit, d'on ne sait où, vient d'apparaître la silhouette d'un colosse, un sac à l'épaule. Teshia, un des meilleurs forgerons de la tribu, un vieil ami. Son visage est bizarrement plus pâle que d'habitude, mais il sourit. Tchaya ! Pulco, le cœur soulagé, fit mine de se jeter dans ses bras, mais l'autre s'accroupit déjà auprès de la voiture, examinant la roue. « Aide-moi » dit-il. La suite se déroule comme dans un rêve joyeux. Le forgeron porte avec lui tout son attirail, y compris le petit soufflet en peau de chèvre et du charbon de bois. Une pierre sert d'enclume. Pulco s'affaire, aide autant qu'il le peut. En quelques coups de marteaux habiles, la réparation est bientôt achevée. Et la roue remise en place sans trop de peine, tant est grande la force du forgeron. « Oh, Chaya, tu nous sauves la vie. Repartons, je vais t'accompagner. » La roulotte s'ébranle. Chaya d'un côté, Pulco de l'autre, le cheval soulagé va d'un pas plus rapide. « Tu ne parles pas beaucoup, Chaya. » « Non. » « Oh, je te revaudrai ça, tu sais. Tu n'as pas à faire un ingrat. » La roulotte va toujours, menée par les hommes. Moins d'une heure plus tard, des feux dans la nuit venue annoncent le camp de la tribu. Des chiens aboient, des tziganes paraissent attirés par le remue-ménage. Pulco se précipite à l'intérieur de la voiture. « Ça va ?»« Ça va, » répond Milka avec vieillance. « Des femmes viennent la chercher, ainsi que les enfants. Oui, oui, tout ira bien maintenant. » Un ami appelle Pulco. « Viens boire une bière, toi, tu l'as bien mérité. » « Oh, pas seulement moi !» Pulco se tourne, mais sans apercevoir le forgeron qui a disparu. « Où est-il, ce brave frère ?»« Viens, viens !» Le tzigane se retrouve assis près d'un feu, à l'aise, entouré par tout un groupe de vieilles connaissances. Il boit, raconte ses mésaventures. « Il faudra que le cheval se repose une bonne semaine. Oh, heureusement que Chaya est arrivé. Mais encore une fois, où est-il passé ?» Les autres, ceux de la tribu, le regardent, surpris, l'interrogent. « De qui parles-tu, Pulco ?»« Mais Chaya, le forgeron !»« Chaya, Chaya, le fils de Kalo et de Stoika ?»« Bah, bien sûr !» Il se fait un grand silence que Pulco ne comprend pas. Et puis un vieux de la tribu explique. Tandis que les autres approuvent de la tête, gravement, tristement. « Oh, tu dois te tromper, ami. Chaya le forgeron a été malade tout l'hiver dernier. Il est mort voilà des mois, et nous l'avons enterré nous-mêmes, hélas !» Pulco, sidéré, ouvre de grands yeux. La bouteille de bière s'échappe de ses mains. Et puis la peur l'envahit. Chaya est un mauvais sort, un mulot. S'il lui a rendu service, quelle terrible chose va-t-il lui demander en échange, peut-être ?
Is it secret? Is it safe?
Well, well. I know you. I walked with you once.
is evil in this world. Hatred and revenge.
Is it secret? Is it safe?
Alors cette fois, bienvenue dans le monde de la peur.
Oui. Alors les explications, vraiment, voilà. Donc c'est des textes de Guy de Maupassant qui avaient été publiés dans le journal Le Gaulois, c'est même précis, le 23 octobre 1882. Si quelqu'un retrouve le journal, pourra vérifier, ça m'aidera à voir si c'est ce que j'ai lu est vrai, vraiment vrai. Parce que les journaux dans la seconde moitié du XIXe siècle constituaient une aubaine pour les écrivains à l'époque, Agathe, tu sais. Ils comportaient une rubrique littéraire qui permettait aux auteurs de publier leurs œuvres avant les éditions sous la forme qu'on les connaît de livres. Alors les romans, bien sûr, paraissaient en épisodes, les nouvelles en une fois. Mais passé maître en cet art, Maupassant publiait ainsi ses contes et ses nouvelles en presse avant de les réunir dans les volumes. La peur appartient au registre du conte fantastique qui tient à la fois de l'étrange et du merveilleux. C'est un genre qui a fleuri à la fin du XVIIIe siècle, au début du XXe, et qui se caractérise surtout par la matière dont sont racontées les aventures, plus que par ces aventures elles-mêmes. C'est plus la définition, tu vois, ce qu'on peut appeler... Pour chacun, la peur est différente, donc on peut l'interpréter de différentes façons, à différentes occasions, on peut la ressentir également. Donc, on va claquer avec la première. On remonta sur le pont après dîner. Devant nous, la Méditerranée n'avait pas un frisson sur toute sa surface d'une grande lune calme noirâtre. Le vaisseau glissait, jetant sur le ciel qui semblait ensemencé d'étoiles un gros serpent de fumée noire. Et, derrière nous, l'eau toute blanche, agitée par le passage rapide du lourd bâtiment, battue par l'hélice, moussait, semblant se tordre, remuait tant de clarté qu'on eût dit de la lumière de lune bouillonnante. Nous étions là, 6 ou 8, silencieux, admirant, l'œil tourné vers l'Afrique lointaine, nous allions. Le commandant qui fumait un cigare au milieu de nous reprit soudain la conversation du dîner. « Oui, j'ai eu peur ce jour-là. Mon navire est resté 6 heures avec ce rocher dans le ventre, battu par la mer. Heureusement que nous avons été recueillis vers le soir par un charbonnier anglais qui nous aperçut. Alors... un grand homme à la figure brûlée, à l'aspect grave, un de ces hommes qu'on sent avoir traversé de longs pays inconnus, au milieu de dangers incessants, et dont l'œil tranquille semble garder dans sa profondeur quelque chose des paysages étranges qu'il a vus, un de ces hommes qu'on devine trempés dans le courage, parla pour la première fois. « Vous dites, commandant, que vous avez eu peur. Je n'en crois rien. Vous vous trompez sur le mot et sur la sensation que vous avez éprouvée. » Un homme énergique n'a jamais peur en face du danger pressant. Il est ému, agité, anxieux. Mais la peur, c'est autre chose. Le commandant reprit en riant. « Fichtre, je vous réponds bien que j'ai eu peur, moi !» Alors l'homme au teint brosé prononça d'une voix lente. « Permettez-moi de m'expliquer. La peur, et les hommes les plus hardis peuvent avoir peur, c'est quelque chose d'effroyable, une sensation atroce, comme une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d'angoisse. Mais cela n'a lieu, quand on est brave, ni devant une attaque, ni devant la mort inévitable, ni devant toute autre forme connue du péril. Cela a lieu dans certaines circonstances anormales, sous certaines influences mystérieuses, en face de risques vagues. La vraie peur, c'est quelque chose comme une réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. Un homme qui croit en revenant et qui s'imagine apercevoir un spectre dans la nuit doit éprouver la peur en toute son épouvantable horreur. Moi, j'ai deviné la peur en plein jour, il y a 10 ans environ. Je l'ai ressentie l'hiver dernier par une nuit de décembre. Et pourtant, j'ai traversé bien des hasards, bien des aventures qui semblaient mortelles. Je me suis battue souvent. J'ai été laissé pour mort par des voleurs, j'ai été condamné comme insurgé à être pendu en Amérique et jeté à la mer du pont d'un bâtiment sur les côtes de Chine. Chaque fois, je me suis cru perdu. J'en ai pris immédiatement mon parti, sans attendrissement et même sans regret. Mais la peur, ce n'est pas cela. Je l'ai pressentie en Afrique. Et pourtant, elle est fille du Nord. Le soleil se dissipe comme dans un brouillard. Remarquez bien ceci, messieurs. Chez les Orientaux, la vie ne compte pour rien. On est résigné tout de suite. Les nuits sont claires et vides de légendes. Les âmes aussi vides des inquiétudes sombres qui hantent les cerveaux des pays froids. En Orient, on peut connaître la panique. On ignore la peur. Eh bien, voici ce qui m'est arrivé sur cette terre d'Afrique.
je traversais les grandes dunes au sud de Warlaga. C'est là un des plus étranges pays du monde. Vous connaissez le sable uni, le sable droit des interminables plages de l'océan. Eh bien, figurez-vous l'océan lui-même devenu sable au milieu d'un ouragan. Imaginez une tempête silencieuse de vagues immobiles en poussière jaune. Elles sont hautes comme des montagnes, ces vagues inégales, différentes, soulevées tout à fait comme des flots déchaînés, mais plus grandes encore, estriées comme la moire. Sur cette mer furieuse, muette et sans mouvement, le dévorant soleil du sud verse sa flamme implacable et directe. Il faut gravir ces lames de cendre d'or, redescendre, gravir encore, gravir sans cesse, sans repos et sans ombre. Les chevaux râlent, enfoncent jusqu'aux genoux et glissent en dévalant l'autre versant des surprenantes collines. Nous étions deux amis, suivis de 8 spahis et de 4 chameaux avec leurs chameliers. Nous ne parlions plus, accablés de chaleur, de fatigue et desséchés de soif comme ce désert ardent. Soudain, un de ces hommes poussa un cri terrible, une sorte de cri où tout s'arrête. Et nous demeurâmes immobiles, surpris par un inexplicable fait même connu des voyageurs en ces contrées perdues. Quelque part, près de nous, dans une direction indéterminée, un tambour battait, le mystérieux tambour des dunes. Il battait distinctement, tantôt plus vibrant, tantôt affaibli, arrêtant, puis reprenant son roulement fantastique. Les Arabes, épouvantés, se regardaient, et l'un dit, dans sa langue, « La mort est sur nous ». Et voilà que tout à coup, mon compagnon, mon ami, presque mon frère, tomba de cheval, la tête en avant, foudroyé par une insolation. Et pendant 2 heures, pendant que j'essayais en vain de le sauver, toujours ce tambour insaisissable m'emplissait l'oreille de son bruit monotone, intermittent et incompréhensible. Et je sentais se glisser dans mes os la peur, la vraie peur, la hideuse peur, en face de ce cadavre aimé, dans ce trou incendié par le soleil entre 4 monts de sable, tandis que l'écho inconnu nous jetait, à 200 lieues de tout village français, le battement rapide du tambour. Ce jour-là, je compris ce que c'était d'avoir peur. Je l'ai su mieux encore une autre fois. Le commandant interrompit le compteur. « Pardon, monsieur, mais ce tambour, qui était-ce ? » Le voyage répondit. « J'en sais rien. Personne ne sait. » Les officiers, surpris souvent par ce bruit singulier, l'attribuent également à l'écho grossi, multiplié, démesurément enflé par les volonnements des dunes, d'une grêle de graines de sable emportées dans le vent et heurtant une touffe d'herbe sèche. Car on a toujours remarqué que le phénomène se produit dans les voisinages de petites plantes brûlées par le soleil et dures comme du parchemin. Ce tambour ne serait donc qu'une sorte de mirage du son, voilà tout. Mais je n'ai appris cela que bien plus tard. L'auteur ici, Agathe, nous explique effectivement en quoi consiste la peur, elle raconte 2 aventures qui lui sont arrivées. Il vient donc de terminer la première que je vous ai lue, ce qui se situe dans le Sahara, où il a entendu un jour un mystérieux tambour, signe de la mort certaine. Et là, je vais te raconter une 2e histoire qui lui est arrivée. Il arrive à sa 2e émotion. C'était l'hiver dernier, dans une forêt du nord-est de la France. La nuit vint 2 heures plus tôt, tant le ciel était sombre. J'avais pour guide un paysan qui marchait à mon côté. Par un tout petit chemin, sous une voûte de sapin dont le vent déchaîné tirait des hurlements. Entre les cimes, je voyais courir des nuages en déroute, des nuages éperdus qui semblaient fuir devant une épouvante. Parfois, sous une immense rafale, toute la forêt s'inclinait dans le même sens avec un gémissement de souffrance. Et le froid m'envahissait, malgré mon pas rapide et mon lourd vêtement. Nous devions souper et coucher chez un des gardes forestiers dont la maison n'était plus éloignée de nous. J'allais là pour chasser. Mon guide, parfois, levait les yeux et murmurait « Oh, triste temps !» Puis il me parla des gens chez qui nous arrivions. Le père avait tué un braconnier 2 ans auparavant et, depuis ce temps, il semblait sombre, comme hanté d'un souvenir. Ses 2 fils, mariés, vivaient avec lui. Les ténèbres étaient profondes. Je ne voyais rien devant moi, ni autour de moi, et toute la branchure des arbres entrechoquée emblissait la nuit d'une rumeur incessante. Enfin, j'aperçus une lumière, et bientôt mon compagnon heurtait une porte. Des cris aigus de femmes nous répondirent. Puis une voix d'homme, d'une voix étranglée, demanda « Qui va là ?» Mon guide se nomma. Nous entrâmes. Ce fut un inoubliable tableau. Un vieil homme à cheveux blancs, à l'œil fou, le fusil chargé dans la main, nous attendait debout au milieu de la cuisine, tandis que 2 grands gaillards armés de haches gardaient la porte.
Je distinguais, dans les coins sombres, deux femmes à genoux, le visage caché contre le mur. On s'expliqua. Le vieux remit son arme contre le mur et ordonna de préparer ma chambre. Puis, comme les femmes ne bougeaient point, il me dit brusquement « Voyez-vous, messieurs, j'ai tué un homme, voilà, 2 ans cette nuit. L'autre année, il est revenu m'appeler. Je l'attends encore ce soir. » Puis il ajouta d'un ton qui me fit sourire. « Aussi, nous ne sommes pas tranquilles. » Je le rassurai comme je pus, d'être venu jusque-là ce soir et d'assister au spectacle de cette terreur superstitieuse. Je racontai des histoires et je parvins à calmer à peu près tout le monde. Près du foyer, un vieux chien presque aveugle et moustachu, un de ces chiens qui ressemble à des gens qu'on connaît, dormait le nez entre ses pattes.
Is it secret? Is it safe?
Au dehors, la tempête acharnée battait la petite maison. Éparée des trois carreaux, une sorte de Judas placé près de la porte, je voyais soudain tout un fouillis d'arbres bousculés par le vent à la lueur de grands éclairs. Malgré mes efforts, je sentais bien qu'une terreur profonde tenait ces gens. Et chaque fois que je cessais de parler, toutes les oreilles écoutaient au loin. Là, d'assister à ces craintes imbéciles, j'allais demander à me coucher quand le vieux garde, tout à coup, fit un bond sur sa chaise, saisit de nouveau son fusil en bégayant d'une voix égarée. « Le voilà ! Le voilà ! Je l'entends ! Je l'entends !» Les deux femmes retombèrent à genoux dans leur coin en se cachant le visage et les fils reprirent leur hache. J'allais tenter encore de les apaiser quand le chien endormi s'éveilla brusquement et, levant sa tête, tendant le cou, regardant vers le feu de son œil presque éteint, il poussa un de ces hurlements lugubres qui font tressaillir les voyageurs le soir dans la campagne. Tous les yeux se portèrent sur lui. Il restait maintenant immobile, dressé sur ses pattes comme hanté d'une vision, et il se remit à hurler vers quelque chose d'invisible, d'inconnu, d'affreux sans doute, car tout son poil se hérissait. Le garde, livide, cria. « il le sent, il était là quand je l'ai tué !» Et les deux femmes égarées se mirent toutes deux à hurler comme le chien. Malgré moi, un grand frisson me parcourut entre les épaules. Cette vision de l'animal dans ce lieu à 7 heures au milieu de ces gens éperdus était effrayante à voir. Alors, pendant 1 heure, le chien hurla sans bouger. Il hurla comme dans l'angoisse d'un rêve. Et la peur, l'épouvantable peur entrait en moi. La peur de quoi? Le sais-je? C'était la peur. Voilà tout. Nous restions immobiles, livides, dans l'attente d'un événement affreux, l'oreille tendue, le cœur battant, bouleversés au moindre bruit. Et le chien se mit à tourner autour de la pièce, en sentant les murs et gémissant toujours. Cette bête nous rendait fous. Alors le paysan qui m'avait amené se jeta sur elle, dans une sorte de paroxysme de terreur furieuse, et, ouvrant une porte donnant sur une petite cour, jeta l'animal dehors. Il se tut aussitôt, et nous restâmes plongés dans un silence plus terrifiant encore. Et soudain, tous ensemble, nous eûmes une sorte de sursaut. Un être glissait contre le mur dehors vers la forêt. Puis il passa contre la porte, qu'il sembla tâter d'une main hésitante. Puis on n'entendit plus rien pendant 2 minutes, qui firent de nous des insensés. Puis il revint, frôlant toujours la muraille, et il gratta légèrement, comme ferait un enfant avec son ongle. Puis soudain une tête apparut contre la vitre du Judas, une tête blanche avec des yeux lumineux comme ceux des fauves. Et un son sortit de sa bouche, un son indistinct, un murmure plaintif. Alors un bruit formidable éclata dans la cuisine. Le vieux garde avait tiré. Et aussitôt les filles se précipitèrent, bouchèrent le Judas et en dressant la grande table qu'ils assujettirent avec le buffet. Et je vous jure que jusqu'au fracas du coup de fusil que je n'attendais point, j'eus une telle angoisse du cœur, de l'âme et du corps que je me sentis défaillir prêt à mourir de peur. Nous restâmes là jusqu'à l'aurore, incapables de bouger, de dire un mot, crispés dans un affolement indicible. On osa débarricader la sortie qu'en apercevant par la fente d'un auvent un mince rayon du jour. Au pied du mur, contre la porte, le vieux chien gisait, la gueule brisée d'une balle. Il était sorti de la cour en creusant un trou sous une palissade. L'homme au visage brun se tut, puis l'ajouta. « Cette nuit-là pourtant, je n'aurais couru aucun danger. »
Mais j'aime mieux recommencer toutes les heures où j'ai affronté les plus terribles périls que la seule minute du coup de fusil sur la tête de ce pauvre barbu de Judas.